les écrans suspendus.
Les écrans suspendus.
Bonjour à toutes et à tous pour cette émission Écran suspendu, donc la dernière, une émission qui va vous parler de cinéma pour toutes les prochaines sorties qui arriveront durant l'année. Et du coup, nous allons parler aujourd'hui avec Olivier. Salut Olivier.
Salut Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors, nous allons parler de Été 85, un film de François Ozon, et qu'on aura la chance d'avoir en sortie nationale au Navire le 14 juillet 2020.
Alors... Non, pardon.
Et du coup, qu'est-ce que l'on peut dire autour de ce film, dont une bande-annonce qui est assez mystérieuse et qui est quand même... qui reste quand même bien, bien secrète, parce qu'on n'y voit pas trop de choses dedans. Alors, c'est un casting, ma foi, un peu inconnu, pour ma part en tout cas. Ce sont trois jeunes acteurs qui débutent dans le cinéma. Alors, Félix Lefebvre, un jeune acteur, par exemple, il a tourné dans des séries sur France Télévisions, Les Infidèles, Le Chalet. Et au cinéma, il a débuté avec L'heure de la sortie de Sébastien Marnier. Il y a aussi Benjamin Voisin, qui a eu un premier rôle au cinéma en 2017 avec La Bonne Pomme de Florence Quentin, et Philippine Velge. Voilà, trois acteurs qui, ma foi, promettent. En tout cas, voilà, c'est bien de voir de nouveaux acteurs, un nouveau casting. Ça permet de mieux, des fois, se plonger dans l'histoire. Alors, ce film, il est important de rappeler qu'il a été sélectionné par Cannes 2020. Alors, vous allez me dire, il n'y avait pas de festival. Mais justement, en raison de l'annulation du festival de Cannes, en pleine période du Covid-19, la commission s'est quand même réunie et a travaillé d'arrache-pied pour quand même sélectionner des films parmi des milliers, comme d'habitude. Et c'est cette sélection qui va porter le label Cannes 2020 et voilà, qui seront soutenus pour les sorties en salle. Et c'est le cas de notre film aujourd'hui, de François Ozon. Alors à peu près, pour parler de ce film, c'est en fait c'est l'été de ses 16 ans, Alexis, alors qu'il fait une sortie en mer sur les côtes normandes, est sauvé par David, un jeune de 18 ans. Et Alexis est alors persuadé d'avoir rencontré l'ami de ses rêves. Mais ce rêve survivra-t-il à la fin de l'été 1985? Alors juste par le synopsis, on sent cette ambiance vacances, surtout bien 80s à mon avis, au vu de la bande-annonce qui se passe sur un fond de pochette d'album de... j'ai perdu le nom, de Taxi Girl, voilà. Ah ouais. Cherchez le garçon, qui va très bien avec le thème du film. Donc voilà, on imagine cette ambiance très 80s, très romancée, vacances d'été. Et voilà, et on n'en sait pas plus pour le moment. Voilà, peut-être que Olivier, tu as vu quelques films de François Ozon, ouais. Il me semble. Tu peux peut-être nous en parler.
Oui, oui, j'en ai vu quelques-uns, effectivement. Et puis j'ai été un petit peu regarder sa filmographie pour essayer de voir un petit peu, de dessiner des caractères un peu généraux dans cette filmographie et voir si éventuellement ça peut correspondre à ce qui nous arrive avec Été 85 à la rentrée. Alors moi je pense à Goutte d'eau sur Pierre Brûlante, c'est une espèce de huis clos dont le scénario est tiré d'une pièce de Fassbinder, l'auteur allemand. C'est Bernard Giraudot, Malik Zidi, Ludivine Sagné, Anna Thompson qui jouent un quatuor assez étrange. Bernard Giraudot a 50 ans, Malik Zidi qui joue Franz a 19 ans et c'est son amant, mais rapplique dans ce huis clos Anna, l'ancienne fiancée de Malik, et puis Vera, une transsexuelle avec laquelle Léopold, Bernard Giraudot, donc, a vécu pendant 7 ans. Donc on voit déjà une espèce de Rubik's Cube affectivo, érotico, etc. Sous le sable, alors là que j'ai vu, c'est Charlotte Rampling et Bruno Kremer dans un duo tout à fait exceptionnel. Charlotte Rampling bouquine sur la plage. Son mari Bruno Kremer, donc c'est Marie Drillon et Jean Drillon, disparaît. On ne sait pas s'il a fui, s'il s'est fait enlever, s'il s'est noyé, s'il s'est suicidé. Et Charlotte Rampling rentre chez elle et vit à partir de ce moment-là dans un huis clos également et dans un déni absolu de la disparition de son mari. Donc là encore, une ambiance un petit peu lourde, un peu spéciale au niveau de affectif, etc. J'ai vu également Huit femmes, qui est tirée d'une pièce de Robert Thomas, un huis clos une fois de plus, même le téléphone est coupé, avec un casting 5 étoiles, Daniel Darieux, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuel Béart, Fanny Ardant, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagné, Firmin Richard, excusez du peu. Et le film commence par la découverte du maître de maison dans son lit avec un couteau dans le dos. Et un petit peu sur le mode d'Agatha Christie, vous voyez, on sent que les huit femmes ont chacune plus ou moins une raison de vouloir voir disparaître l'assassiné. Il y a dans la maison, alors c'est sur une pièce de Juan Mayorga, un élève surdoué qu'un prof de français admire, et on voit encore ambiguïté, et qui écrit des textes voyeuristes sur un camarade de classe qui est un petit peu le bouc émissaire de la classe, et c'est sur ce, encore une fois, ce quatuor. Hein, non, ce trio en l'occurrence, de très fortement ambigu, que toute l'histoire se construit. Enfin, il y a La Potiche, donc c'est sur une pièce de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy, avec Lucchini, Deneuve, Karine Viard, Depardieu. Et là aussi, on a Lucchini, amant de sa plus ou moins servante, bonne Karine Viard, qui tombe malade assez gravement, et Deneuve reprend l'entreprise de parapluie qu'ils tiennent, etc., se débrouille bien, etc., et La Potiche, donc Catherine Deneuve, s'avère en fait une femme forte, etc., donc les rapports de pouvoir, encore une fois, érotico, etc., sont bouleversés. Enfin, j'avais envie de parler de Swimming Pool, avec Charlotte Rampling, encore une fois, et Ludivine Sagné, encore une fois. Là, c'est Charlotte Rampling qui est un écrivain anglais en panne d'inspiration. Son éditeur lui propose sa maison dans le Luberon pour s'isoler et éventuellement retrouver un peu d'inspiration pour son écriture, etc. Et elle est rejointe dans cette maison par une jeune fille, Ludivine Sagné, et ces deux, cette femme d'âge mûr et cette jeune fille, à peu près tous les opposent. Elle, c'est l'anglaise froide, etc. Elle, c'est plutôt la méditerranéenne, jeune, etc. Et c'est l'évolution progressive de leurs rapports qui vont quasiment de l'exclusion à une forme de complicité qui peut éventuellement aller assez loin. Bon, moi, j'ai envie de dire, je crois qu'on m'a compris, que le cinéma d'Ozon, d'abord, est quand même beaucoup tiré de pièces de théâtre. Il devrait peut-être faire du théâtre. Non, mais c'est vrai, il faut savoir changer de métier. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. On est beaucoup dans des huis clos et on est beaucoup sur un travail sur les ambiguïtés psychologiques, les identités sexuelles, les orientations sexuelles. Ceci dit, rien à dire. J'en discutais pas plus tard hier soir sur une terrasse albenacienne qu'on a le droit maintenant de fréquenter, avec un jeune couple de passage qui était visiblement très amateur de cinéma, et le monsieur me disait que lui était très amateur d'Ozon et que justement il appréciait beaucoup ce travail, voilà, sur l'ambiguïté. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Mathieu.
Ben tout, voilà, les films dont tu as parlé, ben je ne les ai malheureusement pas vus, mais j'ai pu du coup comprendre ce que tu voulais dire par ambiguïté, parce que, ayant vu Jeune et Jolie, s'il y a bien quelque chose dont je me souviens, en fait, Jeune et Jolie, pour résumer, c'est l'histoire d'une femme qui se sent un peu en décalage dans cette société, elle se sent beaucoup plus mature que ses collègues de lycée, il me semble qu'elle a 16 ans ou 17 ans dans l'histoire, et qui va décider de son propre gré de se prostituer, voilà, sur des sites internet. Et donc voilà, c'est un sujet très sensible, surtout dans l'époque actuelle, voilà. Et c'est voilà, ça implique la place dans la, comment on se voit aujourd'hui dans la société, mais aussi qu'est-ce qui relève du de la liberté, de sa condition, comment on veut vivre sa sexualité, qu'est-ce qui est aujourd'hui tabou et qui peut l'être alors que ça vient de ses propres choix, et même en étant dans l'illégalité, comme c'est son cas. Voilà, je trouve que ça questionne beaucoup. Là, pour le coup, ce film n'est pas dans un milieu fermé, comme tu as pu dire toi, mais c'est tout comme. C'est une femme qui se sent enfermée, ouais. C'est une femme qui a besoin des autres pour exister, du coup, et du coup de partenaires, de partenaires sexuels, pour voilà, bien plus âgés qu'elle. Donc voilà, c'est une thématique, c'est des sujets très sensibles, ouais. Et c'est pour ça que dans Été 85, au vu de la bande-annonce, ça peut laisser présager une peut-être relation homosexuelle, peut-être, hein, parce qu'on nous avons toujours pas vu le film, et ça serait raccord avec ce qu'il fait jusqu'à maintenant, et voilà, ça serait sans surprise. Peut-être tu veux rajouter quelque chose, Olivier ?
Bah écoute, pas tellement, à part que le seul film qui n'était pas vraiment huis clos parmi ceux que j'ai cités, c'était Sous le sable. Mais en fait, Charlotte Rampling, dans le déni de la disparition de son mari, s'enferme dans une espèce de huis clos personnel, en fait.
Ouais, hein. Ça parle d'enfermement.
Ça parle aussi d'enfermement. Ouais, ouais. Mais je trouve très juste ce que tu dis sur tout ce que ça soulève comme problème autour du choix ou pas, de la possibilité de réaliser ses choix dans la société ou pas. Effectivement, je conçois que ça puisse être passionnant. Moi, personnellement, je mettrais un petit bémol. Ça m'a parfois un petit peu paru un peu répétitif. Hein. Bon, ceci dit, j'en ai vu que trois, mais voilà. Tu avais une petite remarque quand même sur Grâce à Dieu, là. Enfin, tu voulais pas en parler plus que ça parce que.
Alors, Grâce à Dieu, c'est un film qui malheureusement, j'ai vu seulement des extraits. J'ai pas pu le voir entier, mais on rentre totalement. Et là, je crois encore plus. Hein, c'est oppressant, ça se passe dans une église où un jeune va subir des violences, un harcèlement sexuel, des violences sexuelles de la part d'un curé. Et voilà, là on reste encore une fois dans l'enfermement aussi bien psychologique que le lieu dit, l'église, que l'enfermement social, voilà, tout se ferme. Donc voilà, mais malheureusement je peux pas en parler plus, oui. Mais on reste à première vue avec ce que tu as dit, Olivier, totalement dans les sujets qu'aborde ce réalisateur.
Dans ces sujets-là, ouais. Parce que moi, ce dont j'ai entendu parler de la part de spectateurs qui avaient vu le film, c'est que l'avantage, quand même, si on peut dire, c'est que c'est pas un brûlot anticlérical de base,
voilà. C'est vrai.
Et que au contraire, ça comme tu le disais, hein, ça soulève des problèmes qui sont authentiques. Enfin, c'est pas des constructions fantasmatiques. Hein, donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est tout à fait conseillable, me semble-t-il. Ouais.
Ben merci Olivier. Voilà, comme je l'ai dit au début d'émission, c'est notre dernière émission des écrans suspendus. Mais on se retrouve vendredi 26 juin pour le grand retour de Cinémascope. Même si ça sera juste avant les vacances, donc ça sera également la dernière. Mais on va dire qu'on va l'esprit Cinémascope sera de retour avec au menu les films qui sortiront cet été, les films immanquables. Et sur ce, je voulais quand même remercier Cathy et Olivier, Olivier qui est présent aujourd'hui, qui ont pu permettre la création de ce trio de choc.
Merci Mathieu, merci Sylvain.
Et voilà, et aussi un remerciement énorme à Sylvain, Laurent et l'équipe Fréquence 7 qui nous a permis d'avoir pu réaliser ce projet avec eux. Et une pensée à Cathy qui n'est pas là aujourd'hui.
Ah non, la bosse n'est pas là, mais on pense bien à elle. Moi, personnellement, je fais de la radio depuis un moment, et c'est ma première expérience de radio à distance, et là aussi, je tiens à remercier mes compères et la technique Sylvain, bien sûr.
De rien, merci à vous aussi.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt au cinéma, du coup. Au revoir.
Au revoir.